Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Les lieux de mémoire, de Pierre Nora. L'expression « lieu de mémoire » est forgée par Pierre Nora pour désigner tout support matériel ou immatériel, porteur au présent de valeurs symboliques, de mémoire collective du passé. Ce qui fait d'un lieu un lieu de mémoire, c'est à la fois sa condition de carrefour où se croisent différents chemins de mémoire, et sa capacité à perdurer et à être sans cesse remodelé, réinterprété, revisité. Dès 1978, dans sa contribution sur la mémoire collective dans l'encyclopédie La Nouvelle Histoire, Pierre Nora note que l'histoire s'écrit désormais sous la pression des mémoires collectives, qui cherchent à compenser le déracinement historique du social et l'angoisse de l'avenir par la valorisation d'un passé qui n'était pas jusque-là vécu comme tel. Les trois volumes des lieux de mémoire constituent une référence essentielle pour l'histoire culturelle en France. Table des matières, des lieux de mémoire. 1. La République. Symbole, les trois couleurs, le calendrier républicain, la Marseillaise. Monument, le Panthéon, la mairie, les monuments aux morts. Pédagogie, le grand dictionnaire de Pierre Larousse, l'AVIS, instituteur national. Le Tour de France par deux enfants, la bibliothèque des amis de l'instruction du 3e arrondissement. Le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson. Commémoration. Les centenaires de Voltaire et de Rousseau, le 14 juillet. Les funérailles de Victor Hugo. Le centenaire de la Révolution française. L'exposition coloniale de 1931. Contre-mémoire. La Vendée, région mémoire. Le mur des fédérés. 2. La nation. Héritage. Chancellerie et monastère. Le lignage. Les sanctuaires royaux, Reims, ville du Sacre. Historiographie, les grandes chroniques de France, les recherches de la France d'Augustin Thierry, les lettres sur l'histoire de France d'Augustin Thierry, l'histoire de France de Lavis, l'heure des annales. Paysage, le paysage du peintre, le paysage du savant, les guides de Joanne, le tableau de la géographie de la France de Vidal de la Blache. Le territoire, des limites féodales aux frontières politiques, des limites d'État aux frontières nationales, une mémoire frontière, l'Alsace, l'Hexagone, Nord-Sud. L'État, la symbolique de l'État, Versailles, l'image du souverain, Versailles, fonction et légende, le Code civil, la statistique générale de la France, les mémoires d'État. Le patrimoine, la notion de patrimoine, naissance des musées de province, Alexandre Lenoir et les musées des monuments français, Arcisse de Caumont et les sociétés savantes, Guizot et les institutions de mémoire, Mérimée, l'inspection des monuments historiques, Viollet-le-Duc et la restauration. La gloire, mourir pour la patrie, le soldat Chauvin, le retour des cendres, Verdun, le musée historique de Versailles, le Louvre, les morts illustres, les statues de Paris, le nom des rues. Les mots, la coupole, le Collège de France, la chaire, la tribune, le barreau, le palais Bourbon, les classiques scolaires, la visite au grand écrivain, la cagne, les trésors de la langue. 3. Les Frances, conflits et partages, Francs et Gaulois, l'Ancien Régime et la Révolution, catholiques et laïcs, le peuple, les rouges et les blancs, français et étrangers, Vichy, gaullistes et communistes, la droite et la gauche. Minorité religieuse, Port-Royal, le musée du désert, Grégoire, Dreyfus, Drancy et Copernic. Partage de l'espace-temps, le front de mer, la forêt, la ligne Saint-Malo-Genève, Paris-Province, le centre et la périphérie, la région, le département, la génération. Modèle, la terre, le clocher, la cathédrale, la cour, les grands corps, les armes, la profession libérale, un cas, le barreau, l'entreprise, le métier. Histoire de la langue française, de Ferdinand Bruno. Enracinement, le local, le Barzabreich, le Philibrige, proverbes, contes et chansons, le manuel de folklore français. Singularité, la conversation, la galanterie, la vigne et le vin, la gastronomie, le café, le tour de France, la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Enregistrement, la généalogie, l'étude du notaire, les vies ouvrières, l'âge industriel, les archives. Haut lieu, Lascaux, Alésia, Vézelay, Notre-Dame de Paris, les châteaux de la Loire, le Sacré-Cœur de Montmartre, la Tour Eiffel. Identification, le coq gaulois, la fille aînée de l'Église, liberté, égalité, fraternité, Charlemagne, Jeanne d'Arc, Descartes, le roi, l'État, Paris, le génie de la langue française. Pierre Nora est né le 17 novembre 1931 dans le 8e arrondissement de Paris. Il est réputé pour ses travaux sur le sentiment national et sa composante mémorielle, sur le métier d'historien, ainsi que pour son rôle dans l'édition en sciences sociales. Son nom est associé à la nouvelle histoire. Né dans une famille juive askénaze, Pierre Nora est le fils du médecin Gaston Nora et du Julie Lehmann, tous deux issus de familles d'anciennes souches lorraines. Durant la Seconde Guerre mondiale, son père reste à Paris, tandis que le reste de la famille va se réfugier en zone libre, à Grenoble, puis dans un collège à Villard-de-Lans. Il doit finalement fuir pour échapper à la Gestapo. En 1944, la famille est de retour à Paris. Après des études secondaires au lycée Carnot, il est, au début des années 1950, élève au lycée Louis-le-Grand, mais échoue trois fois au concours d'entrée à l'École normale supérieure. Il obtient par la suite une licence en philosophie et est reçu à l'agrégation d'histoire en 1958. Professeur au lycée La Mauricière d'Oran jusqu'en 1960, il en remporte un essai publié sous le titre « Les Français d'Algérie ». Il est assistant, puis maître assistant à l'Institut d'études politiques de Paris de 1965 à 1977. En 1977, il est élu directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Parallèlement, Pierre Nora mène une carrière dans l'édition. Il entre d'abord en 1964 chez Julliard, où il crée la collection de poches Archives. En mai 1980, il fonde la revue Le Débat avec le philosophe Marcel Gaucher. Elle devient vite l'une des revues intellectuelles françaises majeures jusqu'à l'arrêt de sa publication en septembre 2020. Il dirige de 1984 à 1992 les trois tomes des lieux de mémoire, encyclopédie se donnant pour but d'établir un inventaire des lieux et des objets dans lesquels s'est incarnée la mémoire nationale des Français. De 1964 à 1976, il est marié avec l'historienne de l'art et conservatrice de musée Françoise Cachin, morte en 2011. Il est, à partir de 2012, le compagnon de la journaliste Anne Sinclair. Pierre Nora décède à Paris le 2 juin 2025, à l'âge de 93 ans. Thank you. Vézelay. Cette église dont la Révolution avait fait un temple de la raison a été de nos jours admirablement restaurée par Viollet-le-Duc. Et de rappeler que Viollet-le-Duc voit dans les voûtes du narthex le premier germe de l'architecture ogivale, celle que l'histoire de l'art a choisi de dénommer gothique. Johann, bien informé et de surcroît soucieux de rapporter la naissance de la modernité au centre vital de la nation, dans la capitale ou à ses portes, ajoute sur le champ que cette architecture ne devait point naître dans la Bourgogne, mais dans l'Île-de-France, à Saint-Denis. Voici donc la clé de la découverte. Vézelay, chef-d'œuvre d'art roman, issu de la France profonde, sert la cause, en réalité, d'un art autre que le sien, de l'art gothique dont chacun sait qu'il est celui de la monarchie capétienne, ancré dans le sanctuaire national tout près de Paris. Viollet-le-Duc est abondamment couvert d'hommages par tous les guides, pour les restaurations qu'il pratiqua à Vézelay et pour la doctrine architecturale qu'il en tira. Naturellement, une longue postérité d'historiens et de spectateurs émerveillés a choisi d'autres voies pour interpréter Vézelay, celle de la grande sculpture de Vézelay qui alimente les torrents de l'intériorité et qui procure à Romain Rolland l'occasion de remarquer l'indifférence de l'artiste au lieu pour lequel il a élevé son œuvre. Quelle vision grandiose aurait pu être cette robuste cathédrale dominant la région? Et elle ne l'est point. À peine si les deux tours se dégagent de cette masse horizontale, un corps couché, sans tête. Tout l'effet de la cathédrale, toute sa magnificence est à l'intérieur. Là, elle atteint au sommet de l'art. Image aussi du monde conçu par les moines de Cluny, car, au dire d'Émile Malle, de tous ces résumés du monde, imaginés par les artistes de la Bourgogne au XIIe siècle, nul n'est plus magnifique que celui qui se voit au grand portail de Vézelay, grâce au génie clunisien. Un génie abstrait, désincarné, alors que tout l'effort des générations précédentes, au XIXe siècle, avait tendu à revêtir le corps de la nation d'un parement splendide, sans rival. L'ouvrage de Viollet-le-Duc en témoigne. Ses racines intellectuelles et les dessins qu'il nourrit pour sont ceux de cette génération qui parle par la voix des Augustin Thierry, Prosper Mérimée, avec tous les chantres du libéralisme de ce temps. Généalogie. Deux représentations de la parenté, radicalement différentes, semblent donc s'opposer dans les traditions les plus anciennes de la culture paysanne. Une représentation verticale, qui mesure la solidarité que chacun peut attendre de ses proches à la distance qui les sépare de leurs communs ascendants. Une représentation horizontale, qui désigne comme parents ceux qui vivent sous le même toit. Cette dernière conception s'incarne dans la notion de maison que l'on trouve au nord, comme la mesnie de certaines coutumes de l'Est, au sud de la France, la domus pyrénéenne, l'oustal Roerga. La conception lignagère de l'Ouest s'est assez bien conservée. Encore faudrait-il savoir ce qui provient dans les coutumes de l'Ouest d'une influence féodale et ce qui reflète directement des mentalités paysannes. L'idéologie de maison a suivi au contraire, sous la pression de contraintes variables selon les régions, des évolutions divergentes. Dans la France du centre, plus enclavée, affectée à la fin du Moyen-Âge d'un fort déficit de population, l'abondance de terres disponibles et la cherté de la main-d'œuvre favorisent les larges regroupements familiaux de type communautaire. Les communautés familiales pratiquant l'indivision ont été aussi un moyen de faire échec aux droits de main-morte seigneuriale. Elles ont subsisté jusqu'à la fin de l'Ancien Régime dans certaines régions isolées et peu urbanisées, comme le Nivernais ou le Bourbonnais. Mais dans une ère beaucoup plus large de la France du centre, Leur médiocre rentabilité économique a entraîné une disparition assez rapide de la propriété indivise au profit du métayage, qui encourageait toutefois le maintien des larges regroupements domestiques. Dans le bassin parisien, plus urbanisé et plus ouvert à l'économie de marché, l'idéologie de maison a évolué vers des formules plus réduites, incarnées en particulier par la solution juridique de la communauté conjugale, qui convenait aussi bien aux exigences de l'activité bourgeoise qu'à celle des grosses communautés villageoises où la sociabilité de voisinage prenait le pas sur les solidarités de parenté. Dans l'Occitanie, cette idéologie a été largement recouverte par le droit romain qui reconquit la France à partir de son bastion provençal. La formule domestique de la famille souche où les parents cohabitent avec un seul enfant marié, l'héritier choisi pour prendre la succession, indique l'aboutissement de cette évolution. Comme l'a montré Anne Zinck à propos de la Gascogne, c'est avant tout la pression démographique inspirant aux communautés paysannes des vallées pyrénéennes un réflexe malthusien qui a poussé l'esprit de maison à se verticaliser en valorisant l'ancienneté de l'enracinement. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.